Rencontre avec des poètes de chez nous. Une émission proposée et animée par Patrick Matelier-Guinlay. Bonsoir, chers auditeurs de Campus FM. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de poésie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Henri Bottineau. Henri Bottineau, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, Patrick.
Alors, ça me fait très plaisir de te recevoir, Henri, parce que tu es un personnage hors du commun, il faut bien le dire. Alors, d'abord, tu es né en Guadeloupe le 22 décembre 1930, mais en fait, tu es Martiniquais comme moi-même maintenant, puisque ça fait 15 ans que tu es en Martinique.
Absolument, absolument.
Et mon Dieu, avant la poésie, tu as fait tellement de choses. Alors, on va commencer dans l'ordre. Hein. Le football.
Oui,
tu
étais
footballeur.
Oui, oui. Pendant de longues années, oui.
C'est comme quoi le sport mène à la poésie aussi. Et puis ensuite, tu as été musicien.
Oui.
Donc, raconte-nous un peu, donc c'était dans les années 60 ?
Non, mais ça c'est bien après, parce que oui. Quand j'étais gamin, j'ai pratiquement baigné dans la musique, parce que mes frères aînés en faisaient, et avec de super musiciens comme Léo Vard, Marie Pain et ces personnes, j'étais jeune, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de piano dans les maisons familial, et on a eu la chance d'en avoir un à la maison. Et alors, les musiciens venaient le dimanche, les amis de mes frères, et c'est comme ça que, depuis jeune, j'ai pratiquement baigné dans la musique.
Alors, tu chantais ?
Ah oui.
Quel enthousiasme.
Je chante toujours.
Tu chantes toujours, oui. Ça c'est fantastique. Et donc quel genre de musique? Une musique caraïbe, une musique de la biguine, des boléros?
Oui, alors, un peu c'était... de tout, parce qu'à l'époque, les radios qu'on entendait, c'était surtout Porto Rico, à l'époque. Alors donc, comme je parle et j'écris l'espagnol, et alors je suis lancé là-dedans et puis j'ai continué à chanter des boléros.
Du son cubain, des boléros.
Cubaine, oui. Et surtout, ma musique de prédilection, la biguine.
La biguine.
C'est sûr.
Et donc parolier aussi, parce que tu as écrit des paroles de chansons.
Oui, oui, j'écris toujours pour les artistes. Quand ils me demandent ou en français, ou en espagnol, ou en créole, bien sûr. Bien sûr.
C'était ton métier, musicien ?
Non. J'étais employé de banque. Je travaillais à la banque pendant plus de une vingtaine d'années en Guadeloupe et puis aussi en France métropolitaine.
Tu as beaucoup voyagé ?
Un petit peu, disons, oui. J'ai fait presque toutes les îles de la Caraïbe.
Oui.
Ah oui, ça c'est quelque chose à ne pas oublier, ça. Et j'estime que les amis antillais devraient se conformer un peu à cela pour visiter d'abord son environnement, donc la Caraïbe, et ensuite s'exporter, et c'est évident.
Porto Rico, tu
ah oui,
tu
j'ai vécu.
À Porto Rico,
oui,
Cuba.
J'ai vécu. Non, pas.
Cuba, jamais.
Non. Je prévois cette année d'y aller l'année prochaine.
Donc une vie très bien remplie. Et puis tu t'es mis à l'écriture poétique.
Absolument. Ça s'est déclenché en 1969. Et alors je me suis mis à écrire, mais ce qui m'a toujours plus été les vers. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire en vers qu'en prose. Beaucoup plus facile.
Il y a des poètes qui t'ont influencé ?
Non, pas du
tout.
Non.
Mais une écriture classique quand même.
Oui, je suis resté assez classique, mais avec des sujets très variés, parce que j'écris beaucoup la nuit et sous inspiration. La poésie, c'est toujours sous inspiration. Tandis que les chansons, j'ai des thèmes au départ. J'ai le thème, donc je compose sur ça, c'est d'après les mélodies qu'on me donne.
Alors, justement, en fait, Nous te recevons aujourd'hui parce que bientôt va se réaliser un rêve, que je sais un rêve de longue date, c'est celui d'éditer un livre que tu as intitulé « Humour, amour, poésie » et qui comporte donc des poèmes, bien évidemment, mais aussi un certain nombre, pour pas dire un nombre certain, de blagues, de pensées, de réflexions à l'emporte-pièce,
oui,
de gags sur la vie,
oui,
sur
oui.
Et puis donc ce livre a quand même un préfacier de renom, puisqu'il s'agit de Raphaël Confiant. Ensuite, il a été dédicacé par Aimé Césaire lui-même, et l'illustration en est assurée par Raymond Sinamal.
C'est bien.
C'est quand même pas mal pour un premier livre. Hein, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Bon, moi, je peux pas résister. Hein. J'ai envie de vous lire d'abord l'avant-propos d'Henri Bottineau. En poésie, je ne prétends être ni Corneille, ni Molière, ni Racine, ni Hugo, ni personne d'autre. Je veux tout simplement être moi-même. Voilà un bel avant-propos. Et puis cette dédicace d'Aimé Césaire. Partie de la colère et de la rage, mais aussi de la fougue d'aimer et de l'espérance, autant dire le poète d'un peuple, le nôtre, qui a subi toutes les violences de l'histoire et aspire au renouveau. Pour lui dire ma sympathie, Aimé Césaire. Alors, un poète de la colère et de la rage. Moi qui ai lu un peu tes poèmes, je dirais que tu fais une poésie que je qualifierais d'engagée. Pour toi, la poésie, c'est pas seulement chanter les fleurs et les petits oiseaux. Le poète est un homme dans son siècle, dans sa société, et son rôle est de prendre position, de crier tout ce qui ne va pas. De crier l'injustice.
L'injustice, oui. Contre l'injustice. Ça.
Je pense que c'est une dominante de ta poésie. Ce thème de la misère, de l'injustice, sous toutes ses formes.
Oui, oui. Surtout envers les enfants. Surtout envers les enfants. Je ne peux pas concevoir que dans un siècle où il y a tout, il y a les moyens. Qu'on puisse avoir autant de misère vis-à-vis des enfants, tant de souffrance, c'est incroyable. Moi, je n'arrive pas à comprendre.
Et puis, il y a aussi des prises de position un peu sur ce qui se passe dans le monde politiquement, puisque on le verra tout à l'heure, tu prends position sur le problème palestinien, sur le problème kanak, sur... le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On peut dire que tu es un humaniste.
On peut dire ça comme ça.
Ah, je pense que je ne te trahis pas en disant que tu es un humaniste avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de vigueur, parce que tes poèmes sont empreints d'une certaine force, d'une certaine vigueur, d'un certain dramatique. D'ailleurs, certains poèmes, tu m'as confié un jour qu'il t'était difficile de les dire parce qu'ils te mettaient dans une émotion telle que tu n'arrivais pas,
angoisse.
Surtout les poèmes qui parlent des enfants, justement, oui. Et de la misère des enfants. Tu avais beaucoup de mal à les dire toi-même.
Absolument, absolument. C'est tellement poignant et véridique, surtout. C'est... Je n'arrive pas à les lire. Je m'arrête en cours de route, angoissé. Je ne peux plus lire ce genre de poésie.
Alors, il t'arrive parfois de chanter ton pays d'origine, la Guadeloupe, mais le fait que tu aies beaucoup voyagé, tu te considères plus comme dans l'identité caraïbéenne.
Oui, parce que j'ai été dans cet environnement depuis jeune. J'ai commencé à voyager, je devais avoir une vingtaine d'années, et pendant ces 20 années passées en Guadeloupe, j'avais tout l'environnement de mon pays, des îles avoisinantes. Alors, de sorte que la chanson, pour moi, ça a été
un passeport.
Oui, d'ailleurs, j'ai mis dans le livre, je peux vivre dans n'importe quel pays au monde, car j'ai un passeport d'amour.
Et alors, entre la gravité, justement, des poèmes et l'humour, le regard un peu incisif,
caustique même,
pointu, caustique, des gags, des réflexions, des blagues, quel est le pont? Est-ce que c'est le même Henri Bottineau avec un regard différent ou...
Non, pas du tout.
Non,
c'est le même, une continuité.
C'est une continuité, oui, mais il y a des choses qu'on ne peut dire qu'avec la gravité.
Oui, absolument.
Voilà.
Avec le ton qu'il faut mettre dans ce genre d'exercice.
Alors, je vais avoir le privilège, puisque tu me l'as demandé, de vous lire un premier poème. Un premier poème qui s'appelle « La complainte du misérable ». Trop souvent, les poètes ne chantent que les fêtes, toutes les joies du monde, les musiques et les ronds de la mer et le soleil, le bleu d'azur du ciel, les plages de sable fin, les forêts de sapins, le coloris des arbres, le mordoré du marbre. Louer tant de beauté est un devoir sacré. Mais quoi des autres faces, des autres peuples, des autres races croupissant dans la boue, les ghettos et les poux, ignorant toute joie, toute foi, toute loi, couchant à même le sol, enivrés par l'alcool, leur seule consolation dans cette désolation. Crevant dans la misère sans connaître leur mère, vivant dans la souffrance et la désespérance, sans lumière, sans soleil, abrutis de sommeil, sans la clarté du jour que cache l'ombre des tours. Pas de pain quotidien pour tous ces microbiens, ils n'ont droit qu'au bol d'air et la soupe populaire. En lisant ces écrits, on pense que ces proscrits vivent ailleurs qu'ici, au pays des bannis. Erreur monumentale. Fais le tour du canal, grimpe vers la Trenelle, parcours donc ses venelles, descends à Volga plage et assouvis ta rage. Depuis que tu es gosse, que tu roules ta bosse, tous les élus locaux te gavent de bons mots. Nous construisons ici, nous bâtirons ceci. Les années ont passé. Tu as toujours voté pour les mêmes délégués. Tu t'es fait couillonner. Et toi, le pauvre nègre qui vit et meurt intègre, ne laissera pour tes fils qu'une blanche fleur de lys, emblème du roi puissant, tatouage des enfants. Il y a des béquets chiches, mais aussi des noirs riches. Que font-ils pour leurs frères, ceux qui crient la misère? Ils achètent des maisons, villas et pavillons dans les autres régions à grands coups de millions, laissant leur vieille masure dans la ville à l'usure. Si tu te mets à gage pour sortir du chômage, le salaire de ta peine augmentera la haine qui bouillonne en ton sein par la peur de la faim. Tant que tous les nantis n'auront pas tout compris, ton vivarium aux pauvres restera la mangrove. Ce sont des paroles fortes.
et véridique.
Donc tu n'hésites pas à prendre à partie la responsabilité des dirigeants politiques
quels qu'ils soient,
dont le souci premier devrait être d'éradiquer la misère.
Absolument, absolument.
Le poète ne peut pas être heureux dans un monde où l'inégalité règne. C'est Bob Marley qui disait « Tant qu'il y aura discrimination, quelle qu'elle soit, il y aura potentialité de guerre. » Et c'est vrai que le monde en notre 21e siècle, et on s'en aperçoit de plus en plus, ne pourra jamais être en paix, ne pourra jamais être heureux tant qu'il y aura des gens qui crèveront de faim et puis d'autres nantis. Et c'est le rôle du poète d'essayer de faire avancer la société avec des paroles fortes comme cela. C'est ça qui te motive dans ton écriture.
Oui, mais même dans la vie de tous les jours, on ne peut pas passer sous cette misère permanente. Ça n'est plus concevable en 2005. Ça n'est plus concevable. Je dois réagir, je dois écrire contre ça.
Tu ne peux pas faire autrement que d'écrire de la poésie, en fait. Hein. La poésie est une nécessité intérieure. C'est un besoin de crier.
La poésie facilite le regard que l'on porte dans la vie de tous les jours, dans la société. Et ça m'interpelle. C'est pourquoi je m'exprime en vers. Parce que les vers, pour moi, c'est une musique, la poésie. C'est une musique.
C'est la musique des mots. C'est
oui.
Et la musique est la parole des sons.
Comme j'ai dit dans le livre aussi, que c'est comme la peinture. La peinture, c'est la couleur des mots. Les peintres peignent les mots en couleur. Et comme la poésie, c'est la peinture en couleur. C'est ça.
Oui, une seule manière d'exprimer en fait les mêmes sentiments à travers en fait des techniques différentes.
Oui, bien sûr. On m'a demandé une fois, comment se fait-il que tu ne peignes pas? J'ai dit, mais je n'ai pas le don. C'est un don qu'il faut améliorer, comme toutes les techniques. Mais je tire mon chapeau à tous les artistes qui ont quelque chose à exprimer, à dire, et quelquefois qu'ils ne le disent pas. C'est ça qui aussi m'interpelle quelquefois.
Est-ce à dire que pour toi, le fait d'avoir un don pour quelque chose, par exemple pour la musique ou pour la poésie, comme c'est ton cas, est assorti du devoir d'exprimer les choses?
Une obligation.
Une obligation.
C'est une obligation pour moi d'exprimer ce que je ressens, de réel, comparativement à ce qui se passe et ce que je vis. Parce que, bon, je ne peux pas dire que j'ai vécu la misère dans ma vie, non, on était quand même bien. Mais quand on regarde les autres à côté, ont quémandé la faim, c'est incroyable, c'est inconcevable.
Des pays entiers, l'Afrique, par exemple.
Un être humain ne devrait pas avoir faim. Il peut manquer de tout, on peut manquer de chaussures, de vêtements, mais on ne doit pas.
Surtout un enfant.
Surtout un enfant. Mourir de faim, c'est inconcevable.
Alors, je vais lire un autre poème,
Je veux bien, parce que, comme je disais, Patrick disait, j'ai cette angoisse de ne pas pouvoir lire certains de mes poèmes. Ça, il n'y a rien à faire, ni sur l'enfant, ni sur les mamans, je n'arrive pas. J'ai cette angoisse.
Bon, peut-être tout à l'heure, tu pourras nous en lire un
plus léger. Oui, plus léger. Oui.
Le choix. L'homme ne choisit pas la couleur de sa peau. L'homme ne choisit pas d'être vilain ou beau. L'homme n'a pas le choix de son père et sa mère. L'homme ne choisit pas sa patrie et sa terre. L'homme ne choisit pas de naître intelligent. L'homme n'a pas le choix de son sexe en naissant. L'homme n'a que le choix d'accepter d'être soi. L'homme, en devenant homme, disposera de 1000 choix. Si l'homme avait le choix de renaître à nouveau, je suis presque certain qu'il répondrait « tout faux ». Faites donc un sondage en y mettant du cœur. Vous serez étonné des changements de couleur. Et de ma conclusion, vous en ferez la vôtre. Que l'homme ne se sent bien que dans la peau des autres. C'est important ce problème, parce que je sais qu'il revient souvent chez toi, ce problème d'être soi-même, de s'assumer pleinement en étant soi-même, plutôt que dans l'envie de quelque chose d'autre.
Quelque chose d'impossible.
De quelque chose d'impossible. Et puis, c'est pas utile.
Non, on est soi.
On est soi.
On ne peut pas être l'autre.
Et le bonheur, ça ne peut être que être pleinement soi.
Absolument.
Faire ce pourquoi on a été destiné, le faire pleinement.
Oui, ou même je ne dis même pas destiné, je dis désigné même.
Désigné.
Ce pourquoi on a été désigné.
La poésie est un sacerdoce pour toi.
Ah oui. Ah, c'est un refuge de tranquillité. C'est un refuge de calme.
Oui, mais en même temps,
tes mots
ne
aussi,
sont pas calmes,
oui,
tes mots
mais
incitent
aussi,
tes mots.
Mais il faut dire ce qu'il y en a. Il faut dire ce qui existe. Et c'est là que quelquefois, cette révolte intérieure prévaut sur un calme apparent.
Nous revoilà sur Campus FM 96.7 en compagnie du poète Henri Bottineau. Alors, je vous rappelle quand même que nous avons un standard et que vous pouvez toujours nous appeler si vous le désirez, si vous désirez poser des questions en direct à notre invité. Il s'agit du numéro 0596 72 74 68. Vos questions seront les bienvenues. Alors, Henri Bottineau, tout à l'heure, nous avons évoqué des prises de position politiques sur certains problème à travers le monde et au nombre desquels le problème palestinien. Et je crois savoir que tu as écrit un texte qui s'appelle « Le Palestinien ».
Absolument, parce que il est inadmissible que dans ce monde où, en temps de paix, on tue plus de gens qu'en temps de guerre. Alors, cela m'a interpellé aussi.
Oui, c'est une paix, malheureusement, une paix toute relative. Hein. C'est plutôt un état de guerre permanente.
Oui. Alors donc, j'ai écrit le Palestinien que je vais vous lire là.
Nous t'écoutons.
Le Palestinien. Si tu n'as pas d'amis, de bien, pauvre manant palestinien, parcours le monde, cherche les tiens, parmi le peuple des chrétiens. Même les dieux te quitteront, tu seras seul comme le larron, sous les montagnes et sous les monts, à la merci du mage démon. Homme sans patrie, pâle solitaire, loin des tendresses, près des misères, tu choisiras la même galère que ton légué et tes autres frères. Oui, tes ancêtres ont tout vendu, voir la maison et la charrue. Pour toi, la terre est bien perdue. Tu ne vivras que toujours nu. Tu pourras supplier Allah, essayer de lui tendre les bras. Tu n'es pas sûr qu'il t'exaucera, car ton destin suit ton trépas. Si dans ton rêve tu vois ta terre, implore ton roi, fais ta prière, et tous les anges de Jéhovah te bâtiront un nirvana.
Alors, moi, je fais tout de suite une remarque, c'est l'œcuménisme de tes références religieuses. Le nirvana, c'est le bouddhisme, Allah, Jéhovah, les chrétiens, tout est mêlé.
Ah oui. Tout.
C'est la religion de l'amour.
Exactement.
L'amour universel.
Parce que pour moi, le mot religion englobe tout.
En latin, ça veut dire religere, ça veut dire relier les hommes au spirituel, relier les hommes entre eux. Et pourtant, c'est au nom des religions que se sont commises les plus terribles guerres et les plus terribles massacres.
Et je vois que ça continue.
Et l'homme n'a toujours pas compris depuis 1 million d'années qu'il s'est redressé. C'est terrible.
Non, c'est impensable, impensable.
Alors, tu parlais de la Palestine. Donc toujours l'amour, hein, parce qu'un coup de gueule, c'est encore de la compassion et de l'amour pour ses semblables qui souffrent quelque part sur cette terre.
Parce que même pendant la guerre, il ne faut pas oublier que la souffrance est des deux côés. Si deux peuples se battent, ce sont deux peuples qui souffrent.
Oui, et puis c'est surtout les civils qui trinquent, les femmes et les enfants.
Toujours, ce sont toujours les mêmes victimes.
Alors, tu as aussi parlé de la revendication des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du droit des peuples à affirmer leur identité culturelle, leur identité politique. Et à une époque où il y a eu ces tragiques événements que nous savons en Kanaky, tu as écrit pour le peuple Kanak. À Kanaky.
19 nègres sont morts dans les grottes du Nord, fauchés par la mitraille, des cheveux aux entrailles. Les corps décapités de ces assassinés réclameront justice à ces colonialistes. Le sang qui a coulé ne pourra s'oublier dès lors que ces racistes et ces impérialistes quitteront pour toujours cette terre d'amour. Une armée tout entière, 1000 et 1000 canonnières, des centaines de halftraks, juste pour quelques Kanaks. Pourquoi tous ces tyrans ont-ils peur du Liban? Pourquoi n'envoient-ils pas tout leur part à là-bas? Jamais ils ne pourront agir comme des larrons, car dans le camp d'en face, il y aura face à face, avion contre avion, canon contre canon. Mais il faut du courage pour sauver des otages, tandis qu'à Ouvéa, les feux des bazookas ont tué 19 blacks parce qu'ils étaient kanaks. Aujourd'hui, toute une race vivant dans son espace obtiendra pour vengeance demain l'indépendance.
Alors, moi je suis tenté de te poser la question, et qu'en est-il chez nous, en Guadeloupe et en Martinique?
Bien sûr, ce n'est pas le même contexte, parce que nous avons ici, aux Antilles françaises, trop de mélange, tandis qu'à Kanaky, il n'y a que les Kanaks. C'est comme aux États-Unis, il y a beaucoup de mélanges, mais il ne faut pas oublier que ce sont des Américains. C'est ça notre problème aux Antilles. Nous avons des Guadeloupéens, nous avons des Martiniquais, nous avons des Guyanais. On est mélangé, on est obligé de faire avec et faire différemment. On a subi et on subit encore la culture française, c'est notre culture, puisque depuis gosse, on a baigné dedans, on est toujours là-dedans. Est-ce que nous nous voyons maintenant en train de parler américain, anglais, chinois ou japonais? Si nous avions subi les mêmes avatars, nous aurions eu les mêmes résultats.
Alors justement, moi je ne peux pas m'empêcher de poser une question. Et le créole, la langue créole. Alors, c'est vrai qu'elle est absente de tes poèmes. Je sais d'autre part que dans tes chansons, tu l'as utilisée. Mais pourquoi pas en poésie?
Mais est-ce que nous sommes prêts, nous entiers, à accepter la poésie créole?
Il y a déjà tout plein de poètes.
Il y a beaucoup de poètes créoles, mais il n'y a pas beaucoup de lecteurs créoles.
Ah, mais il faut qu'il y ait de la poésie. Il faut qu'il y ait l'œuf avant la poule. Il faut qu'il y ait de la poésie, peut-être, pour générer un besoin de lecture. Mais je sais que il y a un mouvement à présent où la poésie créole prend de l'essor et peut s'exprimer. J'ai reçu déjà ici même quelques exemples de poésie créole avec Jean-François Lienafa, avec Georges de Vassoigne. Nous avons fêté Mon Choachi avec les griots de la Martinique il n'y a pas très longtemps. Il y a une littérature, une poésie créole, et puis en Guadeloupe, Sonny Ripert, bien sûr, Alain Caprice, oui. Mbitako.
Oui, mais alors moi, j'ai préféré faire au plus facile et plus direct, c'est-à-dire passer par la chanson.
Oui.
Parce qu'on est plus imprégné déjà par la chanson que par les textes. C'est, la musique, c'est ça. C'est. Donc, la musique créole, c'est plus facile de passer par ce créneau que dans... Mais, c'est que nos auteurs créoles, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui écrivent en vers, hein, je ne sais pas. Parce que, pour moi, j'écris plus facilement en vers. Quel que soit pour les chansons, c'est pareil. Je n'écris qu'en vers. Est-ce que nos artistes créolophones, est-ce qu'ils sont dans le bon créneau? Parce que parler créole ou s'exprimer en créole, mais il faut savoir ce que l'on dit et ce que l'on pense. Il ne s'agit pas de faire que du doudouisme, ça n'a pas d'impact. Ça ne reste pas.
Non, je parle d'une poésie au combat.
Au combat, oui. Mais comment faire admettre notre créolité dans un si petit espace? Parce que nous sommes... Bon, en plus de cela, on n'a pas qu'un seul créole. C'est un handicap.
Oui, mais les variations sont quand même assez petites. Je pense que, honnêtement, moi, je sais que je peux appréhender aussi bien la poésie créole guadeloupéenne, la poésie créole haïtienne, la poésie créole martiniquaise. Et puis, le créole est quand même un trait d'union entre guillemets international, puisque on peut s'exprimer en créole en Guyane, on peut s'exprimer en créole, il y a une communauté créole à Trinidad, il y a une petite communauté créole qui existe encore à Grenade, à l'île de la Grenade. Bon, ce sont des gens âgés, mais dans certaines parties, puisque les Français et les Anglais se sont un peu partagés toutes les îles, mais ça n'a jamais été très fixe jusqu'à une certaine époque. Donc, Sainte-Lucie, lorsque on va vers Soufrière, on parle le créole. Les gens parlent créole entre eux, ils ne parlent pas anglais entre eux. En Dominique également, il y a une frange de la population qui parle créole. En Guadeloupe, bien sûr. Et puis, Haïti. Et puis, en Louisiane, on parle encore une autre forme de créole. C'est du cajun, mais c'est un créole. Et puis, il y a, de l'autre côté, dans l'océan Indien, la Réunion, où l'on parle aussi créole. C'est une langue et elle mériterait d'être traitée en tant que telle, c'est-à-dire d'avoir sa littérature et sa poésie, et elle l'a déjà. Et je pense que c'est peut-être à nous, les poètes, de je dirais pas forcer, mais de générer l'envie pour les gens de lire le créole.
Oui, mais est-ce que, Patrick, tu as remarqué, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent le créole, qui font des poésies créoles? C'est cela le problème. Il faut passer par les jeunes. Or, avec la chanson, c'est plus facile d'arriver à leur faire de la poésie en créole.
D'accord.
À mon avis,
on pourrait continuer cette conversation très longtemps. J'aimerais que tu me lises le poème au Guadeloupe, justement parce que c'est une suite en fait, d'une certaine manière, au poème sur le Kanaki et sur la Palestine.
Et sur la Martinique aussi, parce que la première poésie c'est sur la Martinique, hein, oui, absolument. Alors, au Guadeloupe, depuis plus de 3 siècles de civilisation, tu ne m'as apporté offrance que négation. À mes pauvres ancêtres enchaînés aux galères, tu supprimas le droit d'exister aux grands terres. Tu les as façonnés au gré de tes désirs, ne leur laissant en prime qu'un infime plaisir, celui combien cruel de t'aimer en esclave, et de mourir pour toi avec au cou l'entrave. Tous ces pauvres vieillards n'ont connu de l'ivresse que le mou et l'alcool, l'odeur de la négresse. Parfois, le soir baissant, assis près de leurs femmes, ils écoutaient hagard le roulement du tam-tam qui ravivait leur cœur trop rempli de chagrin, les yeux rougis de larmes tournés vers le lointain. Aujourd'hui, tous ces fils, séparés de leur mère, de leur père, de leur sœur, reviennent avec leurs frères au pays de l'ancêtre, vivre le grand bonheur, n'ayant connu ailleurs que souffrance et malheur. Oui, vous tous, conquérants des paradis perdus, devez laisser ces lieux à jamais défendus aux hommes courageux, rescapés du passé, vivant dans la ferveur d'une paix inespérée.
Alors, je vais peut-être revenir à un sujet plus grave, et là je vais te prêter ma voix. Il s'agit des enfants, de la souffrance des enfants à Noël et de ce qu'elle entraîne. Noël sans Noël. Une moitié du monde chante en ce jour de gloire, l'autre trop misérable n'a qu'un verre d'eau à boire. Comment peut-on laisser tant de pauvres enfants se vautrer dans la fange au gré de tous les temps? Pourquoi ne pas s'unir afin de leur donner un cerceau, une balle, une petite poupée? Pensons-nous à ces gosses qui regardent les vitrines, les étals de gâteaux sans odeur de latrine. Ils n'ont jamais connu le goût du chocolat, de ses fruits au sirop, de la barbe à papa. Que faisons-nous pour eux, sinon de beaux discours, des paroles éphémères sur les podiums des cours? Avez-vous jamais vu un enfant de la rue, souffreteux, les ragards, debout, la main tendue? Vous qui le voyez là, cherchez-vous le pourquoi de tant de pauvreté, contraire à tous nos droits? Non, je ne le crois pas. Car en faisant l'aumône, nous sommes satisfaits de notre devoir d'homme. Mais demain, Quand l'enfant sortira du méa, nous dirons simplement, faisant notre exéa, que c'est grâce à la pièce que nous avons donnée que la misère humaine a enfin régressé. Ne soyons pas trop fiers de notre charité, mais simplement discrets face à la vérité. Alors, bien sûr, c'est un poème grave, celui-là. C'est ces poèmes-là que tu as du mal à nous dire. Alors, tu as écrit aussi, pour Mandela.
Absolument.
Et
je ne pouvais pas passer. Oui. Sans
l'Afrique du Sud, l'apartheid.
Ah, oui.
Et puis cet homme qui a souffert dans les prisons et puis qui d'un seul coup a pu faire l'unité et l'identité de son peuple. J'aimerais que tu nous lises, Freedom. Non.
Je ne peux pas lire ça.
Alors, je le lirai. Freedom. Je me demande encore si Nelson Mandela ne commet pas l'erreur de vivre à Pretoria. Le processus de paix et d'association ne me fait pas bondir de joie, d'admiration. On dit aussi parfois que l'histoire d'autrefois ne se répète pas si souvent qu'on le croit. Je ne veux pas ici prédire son avenir, mais me remémorer de cruels souvenirs. Il n'y a pas si longtemps, Yewene Tibau était exécuté par un soi-disant fou. Nouméa, c'est la fleur, tout cela est très clair. En Afrique du Sud, c'est le maître de Klerk. On comprendra qui voudra ce palimbroglio, ce mélodrame obscur, triste mélimélo. Tout cela finira sur le pré un matin, et non, comme on le pense, le porte-plume en main. Fallait-il l'élargir sur ordre de blancs intègres? Ne valait-il pas mieux qu'il le soit par les nègres? Peut-être sont-ce ces derniers, ses frères compagnons, qui l'ont laissé moisir et pourrir en prison? Il faut s'interroger. Pendant ces 27 ans, 20 millions de négros, 4 millions de blancs, pas une seule révolte ni même un coup de feu pour libérer ce fils que l'on croyait un dieu. Je ne suis pas si sûr que tous les Africains accordaient leur violon dans les États voisins. Aujourd'hui, libérés par ces mêmes oppresseurs qui veulent faire du martyr l'unique successeur afin qu'il perpétue l'idéal politique, la loi de l'apartheid, toujours à sens unique. Il faut donc m'arrêter et achever ma thèse, tirer ma conclusion, fermer la parenthèse. Si Nelson Mandela devient le président, sa vie ne deviendra qu'un souvenir d'antan. Les hommes qui parlent de paix dans ce monde d'injustice finissent aux oubliettes des palais de justice. Alors, là, je voudrais quelques explications parce que c'est une prise de... Bon, tu as écrit cela avant que Nelson Mandela soit élu président. Et c'est une réflexion qui ne va pas dans le sens de l'opinion commune.
Il faut faire de ce texte-là, il faut faire une rétrospective.
Mm-hmm.
Hein? Le lire avec rétroactivité, si je peux m'exprimer ainsi.
Moi, je sais que c'est un texte qui m'a interpellé parce que justement... il y a des vérités là-dedans qui ne sont pas celles que l'on exprime ou que l'on entend exprimer
aujourd'hui.
Tu veux pas nous en dire plus?
Si, pourquoi pas. Quand j'ai écrit ce texte, il y avait eu tellement d'événements malheureux en Afrique du Sud, que je me devais, avec mon inspiration, je me devais d'écrire. Et j'ai dû changer quelques phrases à la fin parce que ça ne reflétait pas ce que peut-être que j'avais prédit. Mais c'est pourquoi il faut lire ce texte avec un recul. Comme c'est comme si aujourd'hui on voulait lire les textes des écrivains anciens et ne pas les mettre à l'ordre du jour. Mm-hmm. Oui. Donc il faut regarder en arrière quand même. Ça nous oblige quelquefois à regarder en arrière.
Et puis de toute façon, les choses ne s'améliorent pas du jour au lendemain. Non, une blessure aussi profonde met du temps à se cicatriser.
C'est sûr, bien sûr.
Mais c'est quand même une avancée formidable. Oui. Je veux dire, l'accession de Mandela à la liberté d'une part, oui, et ensuite au gouvernement de l'Afrique du Sud, one man, one vote, ouais, ça a été quand même quelque chose de prodigieux. C'est un des événements les plus importants de notre siècle.
Oui, mais la blessure continue toujours de saigner. Parce que
la misère existe toujours.
Oui. Parce que comment imaginer avec un pays aussi riche, parce que l'Afrique du Sud est riche, que nous ayons aux portes de Pretoria
les townships,
ce ghetto, le Soweto, c'est impensable. Parce que il y a les moyens, mais il n'y a pas les hommes. Quand je pense à Mandela, je pense à que voulez-vous qu'il fît contre tous?
La musique des trovadores, des poètes improvisateurs qui s'accompagnent à la guitare à Puerto Rico, ce sont des poètes.
Ah oui.
Le joueur de guitare que tu es ne peut qu'apprécier ce genre de musique.
C'est divin.
Et c'est vrai que ces gens-là arrivent à improviser en vers, maîtrisé, comme ça. Ils se répondent, c'est extraordinaire.
La conversation musicale.
Il y a aussi ce genre de choses à Cuba, il y a aussi ce genre de choses au Chili, mais c'est extraordinaire cette faculté, et c'est une poésie populaire, une poésie paysanne, pourrait-on presque dire, et ces gens ont une faculté de créer comme ça des vers maîtrés en improvisant, c'est prodigieux. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours rempli d'admiration, sans comprendre tellement comment on peut arriver à ce paroxysme de liberté.
C'est une forme de poésie, alors, de sorte que c'est plus facile pour le musicien. Quand on est musicien, c'est plus facile d'écrire.
Alors, je sais que tu voulais peut-être nous lire un poème, puisque nous sommes sur Campus FM, un poème qui pourrait plaire aux étudiants.
J'espère, parce que...
L'X.
J'ai écrit...
Explique-nous le titre,
mais
déjà.
Voilà, L'X, parce que je n'ai pas compris moi-même jusqu'à maintenant ce que j'ai écrit. Et il y en a deux comme ça. Il y a L'X et Le futur du futur.
Oui.
Alors, ces deux poésies...
Lequel tu préfères?
Non, je reprends L'X. Et... Pourquoi j'ai interrogé un psychologue pour qu'il puisse m'expliquer. Il m'a dit, mais je ne peux pas t'expliquer ce que l'inexplicable. Alors, c'est ça qu'il m'a dit. Alors, jusqu'à maintenant, parce que comme nous sommes, c'est un truc sur la science-fiction, et comme nous sommes dans un campus, et je voudrais bien, les étudiants qui écoutent, je voudrais bien, s'il y a des étudiants qui comprennent ce que j'ai écrit, qu'ils veulent bien me l'expliquer aussi un jour.
Nous t'écoutons.
L'X. Je voudrais bien comprendre pourquoi l'espace de vie où ce monde oublié n'existe qu'en pensée. L'imaginaire n'étant qu'un paradoxe admis, martelant l'irréel des privilèges dorés. L'absurde du ridicule engendrant le néant ferait de l'immortel l'axe d'aberration, tout noyant dans l'espace du vide de mes ans la parure démoniaque des peuples et des nations. Le rêve peut-il atteindre une décade extrême sans contraindre l'esprit à devenir occulte et payer en retour par sacrifice suprême son obol illusoire panacé de l'adulte? Où se trouve mon moi, ultime Cagliostro, victime de tant de rage, passion inassouvie, déferlant tout au fond de mon alter ego, extirpant à mon âme les affres de l'agonie? Achèverai-je mon jeu si l'aura pâlissait au crépuscule des âges du disque rougeoyant, vivifiant la pelure que ma sève réchauffait en parcourant les veines de mon amour naissant?
Alors, Henri Bottineau, nous approchons du moment où l'on va devoir se quitter. Alors, un petit mot de la fin. Le mot du poète.
Il y a une phrase que je dis souvent. L'artiste, quel qu'il soit, le poète, l'homme de culture ou même d'inculture, celui qui pense, celui qui réfléchit, celui qui aime, ne meurt jamais. Ce sont les feux de la rampe qui s'éteignent.
C'est une belle conclusion. Henri Bottineau, merci de nous avoir enchantés de tes poèmes. Et puis, donc bientôt en librairie, je suppose. Humour, amour, poésie. Donc, ma foi, vous savez que... À la rentrée, nous allons trouver ça en...
Oui, je crois. Que...
Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous une fois de plus, après une semaine qui, j'espère, vous sera très agréable en poésie, en amour et en humour. Donc la semaine prochaine, même heure, 17h-18h, rencontre avec les poètes de chez nous, avec sous réserve avec Éric Pézeau, voilà, ou avec Édouard Massette, ça sera l'un des deux. Alors à très bientôt, merci de nous avoir écoutés, au revoir.